On jase assez régulièrement à Rage Against le matin du système, notre système de la santé, puis on sait qu'il manque des gens, là. C'est pas le seul domaine où il manque de main-d'œuvre, où il manque d'infirmiers et infirmières, qu'il manque de médecins aussi. Le ministre Christian Dubé veut obliger les nouveaux médecins à pratiquer au public, pas juste aller directement au privé. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? C'est la question qu'on va poser à Pascal Renault, qui est président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec. Pascal est au bout du fil. Bon matin.
Bon matin.
Salut Pascal, merci d'être là avec nous.
Ça fait plaisir.
Je te lance cette question, la question que je viens de poser pour ouvrir la discussion. Le ministre Dubé veut obliger les nouveaux médecins à pratiquer au public. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée selon toi, Pascal?
Ah, c'est une très mauvaise idée, selon moi.
OK. Pourquoi?
Mais en fait, actuellement, là, le ministre, au lieu de se dire c'est quoi le problème, pourquoi les gens vont au privé, il se dit, bon, je vais mettre une loi pour les empêcher d'y aller. Mais s'il regardait puis il prenait le temps là, de voir c'est quoi les raisons qui fait que les jeunes médecins vont au privé, ben, il se rendrait compte qu'il y a plusieurs de ses propres lois qui font que les gens veulent pas rester dans le domaine public.
OK.
Puis nous, comme association, c'est sûr que notre priorité, c'est d'avoir un système public de qualité pour tous les patients.
Ouais.
Par contre, je comprends certains jeunes de dire, bon, moi, si je veux pratiquer la médecine au Québec, ben, le gouvernement me dit, tu vas aller pratiquer à Val-d'Or, tu vas aller pratiquer sur la Côte-Nord, tu n'as pas le droit de pratiquer à Québec, même si ta famille est ici, ta conjointe a un emploi. Donc, ça incite plusieurs jeunes à réévaluer leur carrière dans le public, là.
Bien, c'est là que je voulais aller avec ma prochaine question. Est-ce que ça va faire en sorte qu'on décourage les plus jeunes, de un, à étudier ici au Québec en médecine, et de deux, pratiquer ici au Québec en médecine?
Bien, pour étudier, en fait, il y a toujours une longue liste d'attente de gens qui veulent étudier en médecine. Donc, il va toujours avoir des places. Par contre, après, ce qu'on risque de voir, c'est des gens qui vont finir puis ils vont aller travailler en Ontario, aux États-Unis, dans l'Ouest canadien. La majorité des gens qui étudient en médecine sont bilingues parce que nos livres sont en anglais. Donc, on n'a pas le choix d'apprendre l'anglais. Donc, on est quand même assez mobile à travers le Canada, les États-Unis, puis même aller travailler en Europe. C'est possible avec nos permis de pratique canadiens.
Pascal, justement, ça, c'est un autre... J'embarque dans ce débat-là aussi, le fameux débat des étudiants qui étudient ici au Québec, des frais de scolarité plus bas, puis après ça, qui s'en vont pratiquer en Ontario. On voit notamment un exode de gens qui étudient à McGill. On le règle comment, cette problématique-là?
Ben, en fait, on rend la pratique au Québec plus attractive. On dit aux gens, on veut que vous veniez travailler chez nous. On va vous donner des conditions de pratique qui vont faire que vous allez vouloir rester ici. Puis dans ce contexte-là, si on était capable, on pourrait même attirer des étudiants des autres provinces. Mais c'est très rare qu'un étudiant d'une autre province va venir au Québec parce que nos conditions sont moins bonnes qu'ailleurs.
Oui, puis là, outre le travail en région que tu nous as parlé tout à l'heure, notamment à Val-d'Or, comment qu'on fait pour les attirer?
Ben en fait, il y a plusieurs choses. Un, on enlève toutes les contraintes. Là, le fait de dire, bon, moi, si je veux faire juste de la pratique en bureau puis suivre des patients... Mais actuellement, il y a des activités médicales particulières qui ne me permettent pas de le faire. Je dois consacrer 12 heures par semaine dans un milieu qui est dit prioritaire pour le gouvernement.
Okay.
Donc, je peux être obligé d'aller travailler à l'hôpital, en CHSLD, dans d'autres endroits qui ne font peut-être pas l'affaire de certains résidents qui terminent leur pratique.
Oui, Pascal, qu'est-ce qui fait en sorte que le privé attire tant de médecins? Et qu'est-ce qui fait en sorte aussi, c'est quoi les grandes lignes du fait que le public n'est pas aussi attrayant?
Mais en fait, quand tu vas travailler dans une clinique privée, tu t'installes où tu veux, quand tu veux, tu fais le nombre d'heures que tu veux, puis tu n'es pas obligé d'aller pratiquer dans des endroits qui ne te tentent pas là, dans les types de pratiques. Donc, pour un finissant, quand on regarde, c'est sûr que c'est tentant.
Oui.
Ensuite, il y a moins de pression de prendre un grand nombre de patients parce que la rémunération est plus élevée. Donc, tu dis, je vais faire une médecine de qualité auprès de moins de patients pour le même revenu ou un peu plus, là.
Pascal, le ministre Dubé dit qu'il veut se sevrer du privé. À quoi il sert le privé présentement en santé? Puis on est toujours dans le fameux débat public-privé, mais quelle est sa pertinence à l'heure actuelle?
Bien, actuellement, les médecins qui sont dans le privé, ils voient quand même des patients. Malheureusement, il n'y a pas tous les patients qui sont capables de se payer ce montant-là supplémentaire quand ils payent déjà des impôts pour le service. Mais s'il n'y a plus de médecins dans le privé, moi, je ne suis pas sûr qu'ils vont tous revenir dans le système public. Il y en a qui vont partir ailleurs dans d'autres provinces. Donc, on va perdre de l'offre médicale pour les patients de la province de Québec.
Donc, dirais-tu que le privé est là pour rester comparativement à ce que M. Dubé souhaite, c'est-à-dire se sevrer du privé, puis là, on parle autant en médecine qu'on l'a vu avec les infirmières et les agences privées de placement?
Bien, en fait, moi, ce que je souhaite, c'est que l'alternative du public soit tellement intéressante qu'il n'y a plus de médecins qui sentent l'obligation d'aller travailler dans le privé. Là.
OK. Mm-hmm. À ce point-là, mais est-ce qu'on pourrait... Est-ce que ça pourrait fonctionner, j'allais dire, est-ce qu'on pourrait sauver, mais c'est un peu trop drastique, là. Est-ce que ça pourrait fonctionner un système où le public est à un tel point, ça accroche, on va le dire de même, qu'on n'aurait pas besoin du privé ou on aura toujours besoin de l'option privée?
Bien, moi, je pense que si on va vers le nouveau modèle de pratique que je vous ai parlé, il y a quelques reprises déjà, on sera capable d'offrir un accès, on sera capable d'offrir des services de qualité, puis... Les patients ne sont pas fous. Là. Ils ne voudront pas payer en double déjà par leurs impôts puis se rajouter une consultation médicale de 250 $ pour dire quelque chose.
Oui, ouais, c'est ça. Parce que là, les gens le font parce que la réponse n'est pas là au privé. T'sais, on n'a qu'à penser à... j'ai pas de médecin. Hey, pas là au public, je veux dire, on n'a qu'à penser. J'ai pas de médecin, je vais avoir un rendez-vous. Ben, au privé, oui, je vais payer, mais au moins, je vais être suivi puis je vais avoir ce rendez-vous-là, ce que j'ai pas au public à l'heure actuelle.
Exactement. C'est un problème d'accès, mais... je vous rappelle une donnée que je vous dis souvent, là, il nous manque 1500 médecins de famille au Québec. Mm-hmm. Ajoutez-nous 1500 médecins de famille, on ne parle plus de problème d'accès, on ne parle plus de problème là, d'accès médical parce qu'on va être capable d'offrir les services. Ouais. Mais le gouvernement a mal planifié les effectifs depuis des années, puis on est rendu où ce qu'on est aujourd'hui à cause de ça.
Hey Pascal, aux études, est-ce qu'on fait la promotion du public? Est-ce qu'on encourage les jeunes adultes, les étudiants et étudiantes en médecine à pratiquer au public et à quel moment que la personne, l'étudiant là, qui va avoir son doctorat éventuellement, décide « moi, je vais aller au privé » ».
Bien, là, ça fait longtemps que j'ai fait mes études, là. Ça fait 94 à 99,
okay,
donc
ouais. On a le même âge,
ce qui se passe aujourd'hui. Par contre, je crois, pour voir des résidents là, passer avec nous, il y a un préjugé favorable pour aller au privé quand ils sont étudiants. Par contre, lorsqu'ils se rendent compte de toutes les contraintes puis le fait de ne pas pouvoir s'installer où ils veulent, entre autres, ben, ils se disent « bon, ben, je vais opter pour le privé ». Au Québec, il y en a plusieurs, mais si on regarde toute la couronne de Montréal, c'est encore pire le nombre de médecins qui vont directement au privé après leurs études. Parce qu'ils veulent continuer à rester là puis ils n'ont pas l'option parce qu'il manque là, de postes pour eux dans ces régions-là.
OK. Pascal, je le sais qu'au départ, quand la création de Santé Québec avait été annoncée, tu t'étais prononcé en faveur puis tu trouvais ça très intéressant. Comment tu trouves ça maintenant, plusieurs mois plus tard? Parce que moi, ça m'apparaît que le ministre, là, il travaille à tâtons. C'est comme s'il lançait toujours des affaires du champ gauche. Là, on veut se sevrer du privé en médecine. On veut mettre juste un médecin pour les patients qui sont plus vulnérables. On augmente les salaires de 10% des gens qui passent du ministère à Santé Québec. Je sens pas de suite logique. Je suis dans le champ de penser ça.
Non, mais je suis rendu comme toi. Là. Pour moi, au début, je trouvais que c'est une bonne idée de séparer la politique de la gestion du service de santé là, québécois. Par contre, le ministre est encore autant, sinon plus, impliqué qu'avant. Il y a encore des règles qui viennent. Santé Québec n'a pas encore livré aucune des promesses là, qui étaient par rapport à ça. Donc, je suis un peu déçu. Puis, effectivement, cette hausse de 10%-là, il la justifie par le besoin d'attractivité de fonctionnaires à Santé Québec. C'est drôle parce que nous, on leur dit qu'on a besoin d'attractivité là aussi pour la médecine familiale. Puis on n'est pas du tout dans une optique de nous donner là, une prime pour attirer les gens.
Oui, c'est ça. Donc, c'est deux poids, deux mesures. Puis c'est encore, malheureusement, le personnel cadre et l'organigramme qui l'emporte.
Exactement. Puis juste par équité aussi, là, de ce temps-ci, on parle beaucoup. Les médecins, on va les obliger à faire ça, on va les obliger à faire ça. Mais ça ne s'applique pas à tous les autres professionnels. Là. Moi, si je finissais en pharmacie demain, je peux m'ouvrir une pharmacie à Québec. Je ne suis pas obligé d'aller ouvrir une pharmacie ou travailler en Côte-Nord où il manque des pharmaciens là, dans les hôpitaux à Côte-Nord. Même chose pour les infirmières. Eux autres, ils ont actuellement le droit de pratiquer dans le milieu où ils veulent. Puis il y a de la place partout. Donc, ils ne s'installent pas nécessairement en Côte-Nord. Puis on a vu qu'il y a des problèmes dans cette région-là. Puis jamais qu'on a entendu les politiciens puis les ministres dire « on va obliger les jeunes finissant en soins infirmiers à aller travailler en Côte-Nord ». Puis pour les médecins, ça passe, puis même il y a une partie du public qui semble être d'accord avec ça quand on lit là, les commentaires là, sous les articles, sous les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça un peu triste et dangereux là, pour l'avenir de la médecine au Québec, de prendre la part des médecins et dire, ben eux, on leur enlève tous leurs droits. Là. Même jusqu'à dire, on va utiliser une clause dérogatoire, on va priver des droits fondamentaux un groupe de personnes, parce qu'il y a 3,7% des médecins qui pratiquent dans le privé. Ouais. Donc, je pense qu'on est en train de perdre un petit peu notre liberté, puis la démocratie est un peu sur la dérive là, au Québec avec ce qu'on voit actuellement.
Ouais, rarement une bonne idée d'obliger ou de forcer quelqu'un à faire quoi que ce soit. Là, je pense qu'on pourrait trouver, puis c'est ce que j'entends là, en jasant avec toi, Pascal, qu'on peut trouver d'autres façons justement de convaincre les gens de pratiquer au public. Le docteur Pascal Renaud est président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec. Pascal, comme toujours, très apprécié. Merci pour ton temps.
Bien, merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée.
À bientôt. Docteur Pascal Renaud.
Très intéressant.
Ouais.
Très intéressant. Il a raison. On a tendance. Parce que le médecin va toujours rester la personne ultime dans le domaine de la santé. Ouais. Même si on crée des super infirmières, même si on crée maintenant du service en pharmacie, le médecin va toujours rester la personne la plus importante du système. Puis là, on veut les restreindre, les obliger à faire des choses qu'on n'oblige pas aux autres. Puis très intéressant à la fin son point de vue là, sur l'arrivée de Santé Québec. Moi, je trouve qu'on tire partout. J'avais confiance, moi, on sait que Santé Québec dit « OK, il y a un plan de match qui est établi », mais non.
Ouais.
On fait juste tirer partout au gré du vent, selon l'actualité, selon où est-ce que ça crie le plus fort. Il n'y a pas de plan de match défini à l'heure actuelle. Ça me déçoit beaucoup. Je pensais que le ministre Dubé était là justement pour ça, puis je sens pas qu'il y a un fil conducteur dans ses politiques puis ce qu'il veut mettre en place.
Ça semble trop simple et drastique en même temps là, de juste faire comme, bon, ben, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Bon, on va y forcer.
Ben, c'est
on va y forcer à pratiquer au public, là, pas le choix.
Bon, ouais, puis qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? On va y enlever les agences de personnel en santé. Ils vont tous revenir au public. Non, ils travailleront plus.
Ouais.
Puis pendant ça, là, ben justement, là, t'sais, les régions éloignées comme la terre natale de Max, ben en prennent pour leur rhume.
9h01 avant la pause, pourquoi pas quelques témoignages, quelques messages. 11 novembre, jour du souvenir. Cindy nous envoie en ce 11 novembre, je tiens à remercier notre ami écoloc, aussi parrain de notre fils, pour son dévouement à deux reprises en Afghanistan et lors du séisme en Haïti en 2010. Il a travaillé fort en Afghanistan pour la démocratie, la liberté de tous. Merci, Bienko. De tes amis, Cindy et Dominique.
France qui nous mentionne, je voudrais saluer le dévouement de mon fils Vincent Caillé, 19 ans. Il a intégré les forces à l'âge de 17 ans en tant que fantassin. Un jeune homme calme, ayant une force intérieure incroyable. Un jeune homme qui s'entraîne fort à tous les jours depuis qu'il a su qu'il était pour être un militaire. J'ai dû signer un consentement pour prêter mon fils afin de servir notre pays. Assis bien au chaud, nous n'avons aucune idée des sacrifices que font nos militaires jour après jour. S'il vous plaît, lorsque vous êtes dans un Tim Hortons, au McDo ou à un autre endroit et que vous voyez des militaires au comptoir, payez-leur donc un petit café pour tout ce qu'ils font pour nous. Croyez-moi qu'ils le méritent. Une maman qui a appris à prier.
P.Y. qui nous a écrit « Merci à ma femme et enfin de me laisser faire ce que j'aime. Un an de mission, des exercices a pu finir partout, 4 mutations et 16 ans de service. Merci pour ton service et tout ce que tu fais, P.Y. » Continuez à nous écrire. On va encore lire quelques messages d'ici la fin de l'émission. Si vous avez un petit message, témoignage pour les vétérans ou des membres des Forces armées canadiennes, 88 971 1021. Bonjour du souvenir. Red.